Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Aujourd'hui, les enfants sont malades et derrière moi en train de regarder Totoro, donc on va faire un épisode rapide, vite fait, bien fait. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous tech. Non, dans le rendez-vous jeu, vous voyez, je suis déjà perturbé. Je suis Patrick Béja, on couvre toute l'actu du jeu vidéo. Et si je suis perturbé, c'est parce que j'aurais dû écouter l'IA. Elle m'a prévenu pendant le rendez-vous tech, justement, si vous l'avez écouté. Elle m'a dit « tes enfants vont être malades dans une mélopée déchirante ». Et moi, j'ai ri, je me suis gossé. Eh bien, 2 jours plus tard, ils sont là avec une fièvre carabinée. Bon, on a pris des médicaments, donc ça va un petit peu mieux. Et je suis seul à la maison. Donc, ils sont là derrière moi. Et j'espère que ça va bien se passer. Mais je sais que ça va bien se passer. Parce qu'on a Kassim et Melinda qui sont avec moi pour commenter cette actualité. Je disais vite fait, bien fait, je table sur 30-35 minutes d'épisode. Je ne sais pas si ça va être possible, mais je compte sur vous. Bonjour Kassim, comment ça va ?
Ça va très bien et je me rendais compte que c'est... Je pense que c'est la première fois qu'on fait une émission avec Melinda du rendez-vous jeu. Donc je suis très content.
Je me disais, en fait, il ne faut pas des deux personnes de la même publication, mais maintenant que vous n'êtes plus chez les mêmes, bah, on peut.
Enfin, merci de nous le rappeler.
Avec tristesse, on ne travaille plus ensemble avec Kassim.
Bonjour Melinda, comment vas-tu ?
Hello. Écoute, ça va bien. J'ai pris un peu de soleil d'Espagne, donc ça va.
Tu reviens de vacances ?
Ou pas du tout, non.
Des vacances chez Melinda.
Elle est cool. Non, du tout, non. J'étais dans le sud pour une présentation tech.
D'accord, original. Très bien. Très original, effectivement. Écoutez, avant de nous lancer, je vais vous gratifier de cette petite chanson que j'ai composée à l'aide de Suno.ai, un outil d'IA générative que les auditeurs du rendez-vous tech connaissent. Et vous allez voir si vous comprenez de quoi il s'agit. Oula, c'est un peu fort. I'm stuck. I probably left in a house full of tissues and coughing. Kids crying and sneezing. That ain't what I was hoping.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
The AI told me they'd be sick at home, but I didn't listen and leave them alone. Now it's a pop-punk party in my living room with snotty noses and lots of doom and gloom. Bon, voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Et il y a mon fils qui dit bonjour derrière. Donc, voilà. Maintenant, vous savez l'ambiance qu'il y a ici. J'espère que vous êtes en forme et on va se lancer tout de suite. Ah oui, quand même, un merci aux gens qui permettent à cette émission d'exister. C'était un peu trop fort, je suis désolé. Un merci aux gens qui permettent à cette émission d'exister. Steph Sinalco, le producteur de cet épisode, c'est ta faute. Donc, Steph, maintenant, prends tes responsabilités. C'est à cause de toi qu'on a eu ce début fracassant. Et vous savez quoi ? On va partir tout de suite dans les premières infos importantes à retenir de cet épisode, avec un truc qui a fait lever pas mal de sourcils sur l'Internet. Il y a eu, alors évidemment, j'ai pas la bonne caméra, il y a eu une pub qui s'est affichée dans Assassin's Creed Odyssey pendant le jeu, une pub pour Assassin's Creed Mirage. Imaginez, vous êtes en train de jouer tranquillement à Assassin's Creed. J'ai fait une chanson là-dessus aussi, vous voulez l'écouter ? Voilà.
Waouh !
Attendez, c'est celle-là. Alors... Voilà, c'est celle-là.
On t'entend plus.
Vous entendez pas ?
Non, tu t'es censuré.
Je pense que Discord t'a DMCA la qualité de la...
Mon Dieu. Très bien. Mais vous entendiez tout à l'heure, non ? Oui, vous entendiez.
Oui, tout à l'heure.
C'est ça. Attendez. Hop. An ad pops up right before my demise. J'aime beaucoup. Ubisoft, what have you done? Bon, voilà donc pour cette chanson. C'est pas mal du tout et ça résume la situation. Ubisoft a visiblement fait afficher des pubs sur l'écran de menu des joueurs d'Assassin's Creed Odyssey. Ça a duré quoi, quelques heures. Et en fait, quand ils étaient en train de jouer, ils appuyaient sur le bouton pour afficher le menu. Et en fait, il y avait une pub pour Assassin's Creed Mirage, le dernier jeu qui s'affichait en plein écran. Évidemment, déluge d'indignation et d'insultes sur Internet. Les gens d'Ubisoft ont fait une déclaration, notamment à BFM TV. Et ils ont dit que c'était une erreur technique qui a causé cet affichage. Ils disent ne pas vouloir afficher de publicité dans les jeux. Alors, c'est de la publicité pour leur propre jeu, mais c'est quand même de la publicité. La question qui se pose, c'est, mais OK, vous ne voulez pas afficher de publicité dans vos jeux, donc ce truc-là qui a affiché de la publicité dans vos jeux par erreur technique, c'est quoi? Ça sort d'où? Ça sert à quoi si ce n'est pas afficher de la pub? Mélinda, est-ce que tu aurais une idée? Qu'est-ce que tu penses de cette histoire?
Je vais te dire déjà, nous, c'est quand on a vu ça, moi, j'ai appelé Ubisoft. Et ce qui est drôle, c'est que ils n'étaient pas au courant, en fait. Ils ne l'avaient pas vu. Donc, ça a été fait par je ne sais quelle entité à travers le monde, ce truc-là. En fait, j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Parce que c'est de l'autopromo, comme tu l'as dit. Tu appuies sur map dans ta partie, tu as une pub qui... Je comprends même pas.
Pour prévenir les joueurs d'Assassin's Creed que Mirage est sorti, par exemple, ou qu'un nouveau jeu est sorti. Ça, non.
Tu vois, sur Ubisoft Plus, là, où Ubisoft Connect, je veux bien, je comprends. Enfin, en pleine partie, je vois pas l'intérêt, je trouve ça complètement contre-productif. En fait, ça te saoule. C'est juste, ça te saoule, quoi.
Il n'y a aucun doute, ouais.
Je pense que c'était, c'est devenu un classique. En fait, il y a plein de jeux aujourd'hui qui font de la publicité pour la franchise, mais dans leur menu, en général, c'est plutôt dans le menu principal. Tu arrives dans Call of Duty, on t'explique.
T'as les trois petits points.
Tu lances Overwatch, on va t'inciter à aller voir l'Overwatch League, ou on va te dire qu'il y a eu tel truc, il y a la BlizzCon en ce moment, ou je sais pas, et tu lances un autre jeu, pareil, on va te mettre sur le menu d'accueil, et je pense que l'idée, là, c'était de faire une pub dans le menu d'accueil, en fait, d'avoir un bouton, je sais pas, voir les dernières news, et effectivement, de voir Assassin's Creed Mirage qui est lancé, et au lieu d'avoir fait le lien entre la pub et ce menu du menu principal, ils l'ont fait avec le menu map, ou que sais-je, qui est intégré au jeu, et c'est là l'erreur technique, c'est d'avoir intégré ça. Je pense qu'effectivement, alors je veux bien prêter beaucoup de mauvaises choses à Ubisoft, je pense qu'effectivement ils n'avaient vraiment pas l'intention de le mettre de façon aussi ostentatoire en pleine partie de... C'était limite la pub de YouTube. Alors maintenant tu vas regarder ça pendant 10 secondes et après tu reprendras ta partie.
Je crois que tu as trouvé l'explication. Une pub qui était censée arriver dans le menu principal du jeu, enfin quand tu lances le jeu dans les news et appuyer ici pour en savoir plus, ça serait cohérent. À l'intérieur du jeu, ça l'est moins.
Surtout si... Et quand bien même, comme on a lu, c'était une tentative, tu sais, on fait un essai, on drop ça pour voir comment les gens réagissent et puis on voit si on le met ou pas. Je ne sais même pas qui peut penser un seul instant, un dixième de seconde, que ça peut être une bonne idée, en fait. T'imagines, t'es en pleine part. C'est l'enfer, ce truc.
Je crois que cette idée-là est effectivement, dans ce cas précis, la théorie de l'erreur technique, difficile à expliquer, mais Cassim a peut-être l'explication, est plus crédible et plus probable qu'on fait ça et on pousse les limites de ce qu'acceptent les consommateurs. Non, là, on sait très bien, on a déjà la réponse.
En fait, si ça avait été ça, si ça avait été un test d'une meilleure intégration, d'un truc de « on va tester de mettre la pub et on va tester les limites », là, ça aurait été en fait mieux fait. C'est-à-dire que ça aurait pas été quand tu déclenches la carte ou quand tu déclenches autre chose, ça aurait été... une pub mieux intégrée qui dit là c'est l'instant pub, maintenant nouvelle mise à jour du jeu, on fait ça comme ça, ça aurait été un peu plus officiel, qu'on va dire,
pendant les temps de chargement ou un truc du genre,
voilà.
Deuxième news, Dragon's Dogma 2 a eu droit à une présentation assez longue, enfin une quinzaine de minutes. On en parlait il y a quelques semaines de Dragon's Dogma 2, et c'est un jeu qui est intriguant, et on disait qu'il y avait assez peu de de hype encore à ce stade. Je pense que là, on arrive à un moment où ils veulent vraiment communiquer dessus, d'autant plus que c'est un jeu qui fait suite à un jeu culte, on en avait déjà parlé dans l'émission, un jeu culte, mais qui n'avait pas vraiment connu un gros succès commercial. C'est une approche assez intéressante du RPG pour des Japonais, puisque c'est une version, par le prisme des développeurs japonais, du RPG de style occidental. RPG d'action vu à la troisième personne, vraiment de style occidental. On peut imaginer une sorte de Skyrim à la troisième personne, fait par des Japonais, et c'est un petit peu ce que donne Dragon's Dogma. Donc le premier était sorti en 2011, je crois, quelque chose comme ça, dans ces années-là, 2009, 2010, 2011. Et le deuxième a été annoncé il y a quelques mois. Et la surprise, en fait, c'est que la date de sortie de ce deuxième est fixée au 22 mars, si je ne me trompe pas. Donc, c'est peut-être plus proche que ce qu'on avait imaginé. Et le jeu en lui-même, alors, je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Moi, n'ayant pas connu le premier, j'étais intrigué de voir ce que ça donnait. Je ne sais pas si vous avez regardé la présentation. Kassim, tu y as jeté un coup d'œil, peut-être ?
Un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est pas un jeu que j'attends avec la plus grande des impatiences, même si j'avais bien aimé, j'avais testé un petit peu le premier, j'avais bien aimé. Mais je suis par contre, je l'attends pas voilà comme un fan, mais je suis assez curieux du jeu. J'ai hâte qu'il sorte pour voir ce que les gens en penseront et de savoir ce que ça donnera, parce que le projet a l'air cool, quoi, on va dire, voilà.
Il y a des trucs impressionnants, hein. Ils montrent notamment des boss immenses qui rappellent limite Shadow of the Colossus, on escalade dessus, il y a vraiment un système de RPG classique avec différents jobs. Il y a le système spécifique des Dragon's Dogma qui est celui des pawns, qui sont des sortes de compagnons qu'on va pouvoir customiser, en particulier son pawn principal, et qui va pouvoir par exemple tanker pour nous, ou ça nous permet de jouer seul, même en équipe tout seul, quoi. Il y a quelques trucs que j'ai notés, c'est des trucs du genre la manière dont les Japonais imaginent le RPG occidental, c'est toujours un petit peu, comment dire, on est presque dans l'Uncanny Valley sur certains trucs. La manière dont ils parlent, par exemple, ils estiment que pour que ça fasse vraiment occidental, ils ont besoin d'utiliser un anglais ancien qui, franchement, donne pas hyper bien. C'est systématiquement genre « Thou art arisen, pitiable arisen, why dost thou fight ?» c'est franchement, ça fait un petit peu Elden Ring. Dans Elden Ring, ça passe parce que c'est bizarre. Là, je trouve que ça passe pas top, top, top. Et puis, il y a les langues étranges. Genre, les langues des elfes, c'est juste... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas trouvé que ça fonctionnait, quoi. C'est des langues qui sonnent bizarres. Je sais pas si on va pouvoir avoir le son du trailer, vous donner un petit peu une idée de ce que ça donne. Alors là, c'est la musique, mais... Ça passe encore, ça, mais je sais pas. Il y a une ambiance qui est particulière, quoi.
Attends, pour aller dans ton sens.
Tu vois, là, ça fait. Thou art. Enfin, personne parle comme ça. Ouais. Limite, Shakespeare, tu peux entendre ce genre de manière de parler. Mais dans les jeux modernes, tu dis plus ça. Donc. Tu voulais abonder dans mon sens, Kassim. J'aime bien ça. Tu peux y aller.
oui, non, c'est juste que je trouve que l'écriture, effectivement, des dialogues, des fois, dans les jeux, dans les JRPG, mais qui se veulent. Enfin, dans les RPG japonais qui se veulent occidentaux, tu sens que des fois, ils ont écrit le dialogue plus pour le style que va donner le dialogue à l'oral entre les personnages qui sont en train de dialoguer entre eux, plus que pour le sens que le dialogue va avoir. Oui. Donc, c'est le style et la classe. Plus importante que la profondeur du dialogue. Ouais. Et du coup, je trouve que ça tombe un peu à côté des fois. Donc, ils se donnent des répliques un peu classe et badass, mais en fait, ça marche pas super bien, quoi, parce que ça veut pas dire grand chose.
Show me the path thou wouldst walk. Pardon, vas-y.
Non, mais je dis que moi, je suis assez hermétique. J'avoue que ça me hype pas du tout. J'ai l'impression de voir un... Mais c'est peut-être l'effet un peu du RPG japonais qui essaye de s'occidentaliser, mais je trouve qu'il y a du déjà-vu à toutes les images, quoi. Moi, c'est un peu le truc où j'accroche pas, quoi. Je trouve que j'ai l'impression d'avoir... Comme tu dis, ça fait un peu melting pot de tout ce qu'on connaît qui pourrait marcher, avec ce petit supplément d'âme de l'ancien anglais.
Ouais. Mais ça me fait penser à Dragon Age un petit peu. Mais genre Dragon Age de 2007, justement.
Ouais, tu vois, mais il y a un côté un peu vieillot, modernisé. Enfin, je sais pas, je sais pas, ça a pas passé à côté, quoi. Mais je vais complètement passer à côté, je pense. Peut-être, j'ai tort, hein, sans doute, mais j'ai pas fait le premier après.
Moi non plus. Disons que l'idée que les Japonais tentent de voir ce que pourrait donner un RPG à l'occidental, je suis curieux de ce que ça pourrait, ça pourrait donner. Y a des éléments qui m'ont presque fait penser à Monster Hunter, et c'est Capcom, donc peut-être qu'il y aurait des trucs à amener là. Le combat a l'air hyper dynamique quand on prend des classes au cœur à corps, donc pourquoi pas. On va voir. Troisième sujet à retenir, c'est le Star Engine. Qu'est-ce que c'est que le Star Engine ? Eh bien, c'est le moteur de jeu de Star Citizen. Et franchement, j'explique quand même. C'est une démo de 20 minutes qui a été filmée, entre guillemets, in-game, dans le moteur de Star Citizen, pour en montrer les capacités et les performances. Donc, on a une vidéo qui commence au milieu du cosmos, de la galaxie, et qui va voyager à des vitesses supraluminiques, et qui va aller donc jusqu'à une planète, aller dans l'atmosphère, sur la surface de la planète, voyager dans des stations spatiales, à l'intérieur, aller voir les personnes qui sont dans des stations spatiales, dans des vaisseaux, etc. Et donc, on a vraiment une démo de tout ce que peut faire techniquement ce moteur. Je trouve que, moi, j'ai été assez impressionné par cette démo. Il y a des trucs comme l'atmosphère volumétrique avec des nuages qu'on voit au-dessus de la planète. On a l'échelle de la galaxie qui est très impressionnante. Et puis, on va jusqu'à la planète. On a des villes entières. On a de la faune, de la flore. Enfin, on a l'impression qu'il peut tout gérer, ce moteur, à un niveau, en plus, en temps réel. Alors, d'après eux, c'est en temps réel qu'il peut tout gérer. Un niveau de qualité qui est franchement surprenant pour un moteur qui peut gérer de l'échelle de la galaxie à l'échelle de la sueur sur la peau des protagonistes. Alors oui, c'est pas les plus beaux rendus qui soient imaginables avec Unreal Engine 5, mais on est quand même dans la très bonne qualité, et ça a l'air de pouvoir... Moi, ça m'a impressionné pour cette promesse remplie de... on a un jeu dans lequel on peut tout faire, aller n'importe où dans l'univers. Et pour un jeu dont le but est d'aller n'importe où dans l'univers, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Melinda, est-ce que ce genre de...
J'ai vu la vidéo, j'ai trouvé ça hyper impressionnant pour un jeu qui n'existe pas, en fait. C'est hyper sympa. J'ai trouvé ça super. Non, blague à part, c'est vraiment bluffant. Enfin, tu vois, pour moi, Star Citizen, c'est une espèce de blague qu'on se fait du jeu qui n'arrivera jamais, où tu as peut-être un ou deux gars qui s'est perdu dessus. J'en connais, que je salue, qui prend encore désespérément. Mais en fait, ça rend hyper crédible un truc qui n'est pas crédible, en fait. Mmh. C'est ça que j'ai trouvé bien. Mais c'était... Ouais, j'ai trouvé ça assez bluffant quand même.
Moi, je t'avoue que entre la démo de Squadron 42 qu'ils ont montré il y a quelques semaines et ce moteur, je me dis, mais en fait, ils sont en train de construire des trucs, quoi. J'ai été le premier à me moquer de Star Citizen et du projet qui engouffre des centaines de millions en ne produisant, semble-t-il, aucun résultat. Je
ça fait 10 ans qu'on y croit.
Bah oui, bien sûr. Mais là, vu ce qu'ils ont montré, j'ai l'impression qu'il faut quand même être un petit peu de mauvaise foi, et je pointe mon doigt vers l'excellente jeune femme qui est à côté, pour continuer à dire « Oh, mais ça n'existe pas, il n'y a rien du tout ». Là, ils ont quand même montré... Alors, c'est peut-être tout bidonné, hein, c'est possible, mais j'ai pas l'impression. Départage-nous, Kassim. Qui est qui a raison et qui fait une preuve de mauvaise foi honteuse ?
Bien sûr, j'ai effectivement faire ça. Qui va ne plus être mon ami à la sortie de cette émission? Non, je dirais que c'est peut-être la pré-production la plus longue ever pour un jeu vidéo, parce que là, en fait, ce que tu dis, en fait, ce que tu décris, la démo de Squadron et la démo de moteur de jeu, c'est le fait qu'il soit sorti de la pré-prod pour enfin rentrer dans la prod, a priori, et pour, là, ça y est, construire vraiment le jeu, maintenant qu'ils ont construit les technologies qui leur permettent de faire le jeu. Sauf que c'est la pré-production la plus longue de l'histoire du jeu vidéo, et qu'en 10 ans, en fait, créer des technologies pendant 10 ans, c'est un peu problématique, parce que, bah, il y a 10 ans, c'était voir dans le futur, et là tu le disais, par rapport à l'Unreal Engine, c'est moins impressionnant sur la qualité, vraiment, par exemple, des modèles, etc. Et puis en plus, y a c'est très très, et pour aller un peu dans le sens de Melinda, c'est très marketing, parce que évidemment le moteur, en fait, c'est un moteur à la base, c'est le CryEngine de Crysis, qui a été extrêmement modifié à travers les années pour arriver à en faire un moteur pour Star Citizen, pour effectivement faire toutes les fonctionnalités qu'ils ont promises, de pouvoir tout faire, voyager, aller d'une planète à une autre, etc. Du coup, la démo est effectivement impressionnante, mais je suis d'accord qu'il va falloir aussi attendre le jeu derrière maintenant pour voir ça. Après, là où c'est impressionnant, c'est que en fait, je pense que c'est aussi se poser la question de savoir quel jeu on attend. Et moi, cette démo, elle m'a rappelé les trailers de Flight Simulator de Microsoft, avec justement ce côté très. En fait, on te montrait des vidéos très impressionnantes pour te montrer un moteur, ce qui est le plus important quand tu es un joueur de simulateur. Et il faut se souvenir que Star Citizen, c'est pas tant un jeu vidéo qu'un simulateur. Donc les gens, voilà, c'est ce que le public cible de Star Citizen, il attend, c'est exactement ce qui est montré dans cette vidéo, le fait de pouvoir empaqueter des choses dans ton cargo, les emmener d'une planète A à une planète B, etc., etc. Même si derrière la boucle de gameplay, c'est et ils le disent d'ailleurs dans l'introduction de la vidéo, tout a été accéléré parce que en fait voyager. Et c'est un truc que Starfield a un peu pointé du doigt ici, avec ses temps de chargement. En fait, les gens, c'est un fantasme de l'humain de voyager dans l'espace, mais en fait, voyager dans l'espace, c'est le truc le plus chiant du monde. Personne n'a envie de faire ça. Tu passes une demi-heure, et même une demi-heure, non, c'est exagéré, tu passes une demi-heure pour aller d'une planète A à une planète B, et c'est... Bon, bah voilà, il se passe rien, car l'espace est vide.
Mais derrière ma mauvaise foi, j'avoue que moi, là, si le jeu ressemble à ça, à ce qu'on a vu, ça me tente déjà un peu plus. Mais après, je me moque, c'est juste vraiment histoire de faire la mauvaise foi et de me moquer de tous ces gens qui me parlent de Star Citizen comme de la prochaine perle et révolution et qu'on attend encore désespérément. Mais voilà, mais je suis d'accord avec Kassim, c'est censé être un jeu d'exploration, de vol et tout. Voir des persos hyper bien faits, c'est cool, mais a priori, on s'en fout un peu.
Ouais. Donc, à vrai dire, ce que dit Kassim me range un petit peu de ton côté. Oui, ils ont le moteur, mais le jeu reste à faire. Bon, tu m'as un petit peu convaincu que Melinda était derrière sa mauvaise foi volontaire, avec quand même un point.
De rien.
Un fond de raison.
C'est tout pour les news du moment, et on va parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Je vous rappelle quand même que cette émission existe grâce au Patreon. Existe, c'est discutable. Il y a les deux petits derrière qui commencent à s'agiter. Donc, si vous appréciez l'émission, patreon.com/rdvjeux, n'oubliez pas.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kassim, on parlait la semaine dernière de Lethal Company, et on en parlait parce que c'est toi qui es venu sur le... Discord faire une sorte de campagne de promotion de Little Company.
Lobbying, c'est Kassim, c'est du lobbying.
C'est ça. Tu as beaucoup apprécié le jeu et tu peux nous en parler toi-même directement. De quoi s'agit-il ?
Tout à fait. C'est le dernier succès indé en date. Alors, en fait, ça m'intéresse pour deux raisons. Alors, effectivement, j'ai joué et je trouve le jeu fun et je vais l'expliquer dans deux secondes. Mais il y a aussi ce qui se passe en dehors du jeu. C'est-à-dire que de plus en plus, en particulier depuis le Covid, il y a ce phénomène de jeu qui cartonne sur Twitch et qui arrive à percer alors qu'il a été développé. Là, en l'occurrence, c'est par une seule personne qui a 21 ans. Alors c'est pas son premier jeu pour le coup, il travaillait avant, il faisait des jeux sur Roblox, donc on pourrait en parler, mais en gros voilà, c'est d'un coup il a travaillé pendant un an et demi sur son jeu, et le jeu est sorti il y a un mois en early access, et là c'est le succès, mondial du jeu. Mis ça de côté, le jeu en lui-même, je vais réexpliquer le principe rapidement, mais c'est un jeu de coopération, idéalement à 3 ou 4 joueurs, c'est jusqu'à 4 joueurs, où vous allez devoir explorer des planètes et récolter des matériaux abandonnés dans une usine. Et tout le sel du jeu, c'est que les communications entre les joueurs se font par du vocal de proximité, donc c'est dans le jeu, et dès que la personne s'éloigne de plus de 5 mètres de toi, tu l'entends de moins en moins, et il y a plein d'effets sur la voix de la personne pour rendre ça de façon très réaliste et en même temps un peu rigolote. Typiquement, si la personne est en train de se noyer, parce que en fait tout le sel du jeu aussi, ça va être qu'on est très fragile, si on est en train de se noyer, par exemple, tu vas d'un coup parler on va t'entendre le plus fort.
Il y a des effets sur ta voix et toi tu parles normalement, exactement. Mais de l'autre côté on entend, ouais, d'accord.
Exactement. Ça va créer des moments très drôles, ce qui du coup fait aussi du coup tout l'intérêt du jeu pour du Twitch ou du YouTube. Donc ça va aussi créer la viralité de ce genre de jeu. Moi j'ai pu passer des soirées avec des potes à y jouer et on a à chaque soirée, on a eu au moins un ou deux fous rires de situations assez ridicules. Et en même temps, enfin ça qui est magique avec ce jeu, c'est qu'il marie à la fois le timing du comique, parce qu'en fait c'est la façon dont les gens peuvent mourir d'un instant à l'autre, et la personne te crie oh mon dieu il y a un monstre, et d'un coup t'entends et puis il y a plus de voix, et du coup tu te marres de la façon dont il est mort instantanément. Et en
même temps, c'est marrant, à ce propos spécifiquement, je crois que c'est toi qui l'a encore partagé l'article sur le Discord, un article sur les enseignements qu'on peut tirer du jeu et à quel point il a été conçu et designé intelligemment. C'est pas juste un truc qu'il a fait comme ça, il a eu beaucoup de travail sur le jeu. Et il parlait de ça spécifiquement dans l'article, je le mettrai dans la newsletter, cet article-là. Il parlait de ça spécifiquement, le fait qu'on a des monstres qui apparaissent soudainement et qui vous dégomment soudainement et qui coupent, et ça coupe la communication très vite. Ben, ça fait partie du design du jeu qui fait qu'il fonctionne aussi bien. Il y a plein d'enseignements intéressants, mais celui-là m'a marqué. C'est pas par hasard que ça se passe comme ça.
Non, tout à fait. Et il y a un truc aussi après de vrai système de jeu presque d'horreur, dans le sens où si tes camarades justement meurent et que tu te retrouves tout seul dans une usine désaffectée ou le sort de donjon en gros du jeu, d'un coup t'es tout seul. Et en plus il y a le fait que les gens morts peuvent être en spectateur et te voir et t'entendre parler tout seul, quoi, on va dire. Et eux peuvent parler entre eux, entre morts, et rigoler de la situation ou quoi. Et tu te retrouves vraiment, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois aller sauver. Et après, il y a tout un propos aussi, un peu, on est au service d'entreprise et on doit essayer de rejoindre un quota et d'avoir assez de gains tous les quelques jours, etc. Le sel du jeu, c'est vraiment ce truc d'exploration. Et oui, il y a aussi un système de talkie-walkie où du coup, tu peux te répartir les tâches. Moi, ça m'a fait penser beaucoup à Alien, parce qu'il y a notamment un des rôles que peuvent s'attribuer les joueurs, c'est de rester dans le camp, en haut, dans le camp de base. Et de surveiller les autres joueurs à distance, et en fait tu les vois sur un radar, et c'est vraiment personnage versus des points rouges qui se rapprochent d'eux instantanément façon alien. Et il y a ce truc de tu préviens au talkie, attention il y a un monstre qui arrive, enfin il est où ça et tout, enfin écoute tu les vois se barrer, enfin tu les entends crier au talkie-walkie, voilà. Mais il y a, donc c'est un jeu que je recommande. Et oui, dernier point de sa viralité, c'est un jeu qui coûte 10€ sur Steam, l'investissement est assez maigre pour tenter, et je prédis qu'il sera dans le Game Pass dans les 6 prochains mois. Voilà.
Très bien. Dans les 6 mois, Lethal Company dans le Game Pass, c'est très possible. On en parlerait plus longtemps dans un épisode normal, mais ceci n'est pas un épisode normal. Vous pourrez aller le tester par vous-même. Ça s'appelle Lethal Company. C'est en Early Access sur Steam à ce stade. Melinda, toi, tu as joué à un truc dont je n'ai jamais entendu parler. Ça s'appelle Kona 2, Brume. De quoi s'agit-il ?
C'est un deuxième épisode. Donc, tu n'avais pas entendu parler de Kona, le premier. Donc,
non.
J'en déduis.
Je n'avais pas... Peut-être que c'était Kona 1, Bruine, peut-être, ou un truc du genre
Non, même pas. Il s'appelait Kona tout seul, mais c'était exactement la même ambiance. Alors, si vous aviez envie d'avoir froid, c'est le jeu idéal. Ça se passe dans le nord du Québec, dans les années 70. Donc, il caille, il fait moche, c'est génial. Tu arrives dans un endroit où il y a eu des morts et il n'y a plus d'habitants, tu ne comprends rien de ce qui se passe, il y a des trucs mystiques, voilà. Ça, c'est le cadre du premier.
Genre, dans le deuxième... ville... Ah oui, c'est ville vidée, pardon, tu parlais du premier. Ville vidée, il n'y a plus personne.
Le deuxième prend la suite, mais il n'y a aucun souci. Si vous n'avez pas fait le premier, vous pouvez... c'est des jeux qui ne durent pas très longtemps. Hein. On est entre 8h, 10h si vous traînez grand max, quoi. Et le deuxième prend la suite, donc tu joues toujours le détective Carl Faubert, qui dans le premier donc, devait enquêter sur le meurtre d'un riche du coin et qui se réveillait en fait à moitié amnésique sans comprendre ce qui se passait avec des trucs. Il y a une dimension hyper mystique dans le jeu. Et donc là, tu reprends ton personnage qui arrive de nouveau, qui s'est échappé à la fin du premier et qui arrive dans une zone complètement sous 3 mètres de neige. Il n'y a personne, il est poursuivi par des êtres, il ne comprend pas qui c'est. Et donc, il y a toujours ce côté où tu dois survivre, toi, face au froid, face à la brume. Donc, dans le deuxième, en plus, qui est un peu étrange. Il y a un côté un peu Twin Peaks, tu sais, de ce côté, cette ambiance un peu où tu comprends pas ce qui se passe. Il y a des meurtres qui n'ont pas d'explication. T'as des apparitions de temps en temps. Enfin, moi, j'aime bien. C'est une ambiance très, très particulière. J'ai commencé le deuxième. Là, je suis dessus. J'ai quand même préféré le premier. Donc, si vous n'avez pas fait Kona, faites le premier. Le deuxième est bien. C'est vraiment ce jeu un peu... Tu comprends pas ce qui t'arrive, en fait. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est un jeu d'enquête et d'exploration. Dans les années 70. Petit twist qui m'a fait beaucoup rire, c'est que tu te retrouves à aller dans des cabanes. Évidemment, tu es au Canada, donc cabane au fond du Canada. Et tu tombes sur des objets, donc très années 70, dont des vinyles de Joe Dassin. Tu ne sais pas pourquoi, tu as soudainement des trucs.
Pourquoi
et comme tu
veux
ramasser des objets, tu les prends, tu te dis pourquoi pas, mais ça ne te sert à rien. Spoil, ça ne sert à rien de prendre le disque de Joe Dassin, vous pouvez le laisser dans la cabane. Mais voilà, non, c'est très particulier, c'est entre l'enquête, la survie. Cette espèce d'ambiance un peu oppressante à cause du cadre, du froid où tu dois enquêter sur des morts, tu comprends pas bien ce qui se passe. Moi j'aime bien, voilà, c'est pas très compliqué, c'est un petit jeu, hein, c'est vraiment le Kona, premier est peut-être encore dans le Game Pass d'ailleurs.
C'est en FPS, c'est ce mode de contrôle personne quoi.
T'es vraiment
c'est
vu première personne, ça demande pas des réflexes de folie, hein. C'est vraiment de l'enquête, de l'intuition, des choses comme ça. Mais c'est, j'aime bien l'ambiance.
Kona 2, K-O-N-A. Et moi, je ne vais pas vous montrer comment c'est dehors chez moi, mais en regardant la vidéo YouTube, là, j'ai un peu l'impression de voir le dehors de la maison. Donc, tu vois, le dépaysement...
Ça ne changera pas.
Ouais, c'est ça.
Désolé,
ce
n'est pas le bon jeu. Ça ne dépaysera pas.
De mon côté, j'ai joué un petit peu à, figurez-vous, j'ose à peine le dire,
c'est un tout nouveau jeu.
Déjà la semaine dernière, League of Legends. Je crois que, est-ce que je peux le dire comme ça ? Je suis un joueur de League of Legends maintenant.
C'est terrible, hein, l'âge. Hein.
Non mais c'est...
La révélation.
c'est vraiment fou. Hein. La semaine dernière, je disais, j'essaye comme ça pour voir. J'y prends beaucoup de plaisir. Alors, vous savez que je suis un petit peu client de ce genre de jeu service où il y a une grosse progression possible. Ça nous enveloppe complètement. Mais là, tous les soirs, le truc que j'attends, c'est venir et faire deux parties. Je me fais exploser, bien sûr, mais faire mes deux, trois parties de League of Legends. Et encore une fois, 15 ans après le lancement du jeu, bah, il continue à gagner des nouveaux fans, ou en tout cas au moins un, on va dire. Je vais en parler dans une seconde. Mais voilà, c'est le truc auquel j'ai joué cette semaine, quand je pouvais. Je précise que je suis en train de réfléchir à la possibilité de faire un épisode spécial pour expliquer aux gens pourquoi c'est intéressant, avec les camarades du Discord qui jouent à League depuis longtemps. Et peut-être qu'on va se faire un petit épisode spécial pour les vacances de Noël, où on va parler de... d'abord, expliquer pourquoi c'est sympa, pourquoi c'est passionnant, pourquoi on peut y jouer aussi longtemps, et puis geeker un petit peu ensemble sur League. Donc voilà, ça arrivera peut-être, je ne garantis pas, mais c'est l'idée à ce stade. Et du coup... Je ne vais pas en parler plus longtemps, un League vous connaissez, je redétaillerai un autre moment. On fait la troisième partie, 30 minutes. Bon, la petite est en train de... t'allonger. Pap, 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 pap. Ça va mon cœur ? Ça va, ok, très bien, ok. On a presque fini ici, on pourra aller prendre le goûter après. Ok ? Ok. Ok, très bien. Donc, les détails des petites infos un peu moins importantes. La PlayStation 5 Slim est sortie. En gros, c'est exactement ce qu'on attendait. PlayStation 5, plus petite. Pas petite, mais plus petite. C'est déjà ça, avec le support un petit peu moche. Je ne sais pas s'il y a grand-chose de plus à en dire, s'il y a autre chose à en dire. C'est une PlayStation 5. Qui coûte le même prix, donc elle est slim, mais pas vraiment comme toutes les autres slim. Elle s'appelle officiellement slim, d'ailleurs, mais elle n'est pas moins chère. Évidemment, Sony, ils n'ont pas besoin de se battre très durement, donc ils font ce qu'ils veulent. Et les Game Awards, c'est la semaine prochaine, c'est ça, la semaine prochaine, après le prochain épisode. Microsoft a fait savoir qu'il y aurait une annonce importante. Au moment des Game Awards, une annonce qu'on ne veut pas rater. Kassim, est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être ?
Bien sûr, ça va être... Non, je ne sais pas du tout. J'imagine que ça va être une belle fournée de Game Pass. Au moins, à minima, ça va être ça. Et puis après, je pense qu'ils vont annoncer un jeu ou deux, ou un trailer de gameplay d'un jeu attendu pour l'année prochaine. Ça peut être... Alors, l'habitué des Game Awards, c'est Hellblade 2, qui est prévu pour 2024. Donc, ça peut être un gros moment, une grosse démonstration du jeu. Et alors c'est vrai que Xbox par contre a pris l'habitude, un de leurs moments de communication dans l'année, c'est les Game Awards. Faut se souvenir que la Xbox Series X a été dévoilée aux Game Awards, hein, donc
possiblement des grosses choses. J'imagine pas les annonces par exemple des dates des intégrations des jeux Blizzard au Game Pass, parce que on attend ça en 2024 et ils vont pas annoncer Diablo est dans le Game Pass genre en février et détruire les ventes de Diablo. Même si on sait que ça va arriver quand on le dit.
Ça, j'y crois pas non plus, ouais.
Donc,
je voyais plutôt Fable, sinon. Fable ou Hellblade. Mais il y a quand même un truc, c'est que je sais pas s'ils vont donner du lourd quand même. Parce que regarde, quand tu regardes les nominations aux Game Awards, franchement, Xbox, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, je sais pas s'ils ont beaucoup, ils ont énormément envie de filer du lourd, type la soi-disant nouvelle console ou pas.
Je pense qu'ils sont pas. Alors, non. La nouvelle console, je pense pas, mais le problème, c'est qu'ils sont pas, en bonne position sur le marché. Donc oui, ils peuvent faire leurs annonces quand ils veulent, mais les Game Awards, c'est devenu une grosse place de communication. Donc, ils peuvent pas faire la fine bouche.
Je sens bien un jeu, genre un Fable ou un Hellblade 2 qui arrive, en effet.
Peut-être.
Je pense que dans le lot, il y aura au moins un nouveau jeu qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui et pour s'ajouter à la liste des 40 jeux qu'ils ont annoncés, qu'ils n'ont pas encore sortis. mais je vois bien un jeu, un nouveau titre à attendre pour, comme ça qu'on puisse continuer à dire l'an prochain, ça y est, c'est l'année de Xbox. Quoi.
Comme tous les ans depuis 4 ans, c'est ça ?
C'est ça.
C'est l'année de la VR. Vous allez voir.
Ah oui.
On a également l'info qui est tombée. Je vous disais que j'allais reparler un tout petit peu de League of Legends. C'est encore un record historique pour l'e-sport League of Legends en nombre de spectateurs. Le pic d'Audimat était à plus de 6 millions pour l'Audimat des championnats de League of Legends. Donc bravo à eux. Et surtout, Je vous avais parlé la semaine dernière, je vous avais encouragé à aller voir de quoi il s'agissait et peut-être regarder la finale. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas été séduits par cette idée. Eh bien, je vous propose un autre moyen de toucher du doigt un petit peu ce que ça veut dire. C'est une vidéo de B-Hop qui s'appelle T1. Alors, on spoil le résultat, mais si vous n'avez pas encore regardé, c'est trop tard. T1, le quatrième sacre de l'Empereur. C'est une vidéo qui dure 30-40 minutes. Et je vous encourage du coup à aller la voir, je la mettrai dans la newsletter, à aller la voir pour comprendre un petit peu la hype de ce genre de choses, résumée en une quarantaine de minutes. Elle est vraiment bien faite et je l'ai trouvée pas mal du tout. Donc vous pourrez vivre ça comme ça. Un autre truc que je mettrai dans la newsletter, c'est une vidéo de Stormgate. Stormgate, c'est un jeu qui a été créé, qui est en cours de développement chez Frost Giant, qui est un studio créé par des anciens de Blizzard. Hein, il y en a beaucoup, mais surtout des anciens des RTS de Blizzard, Warcraft, Starcraft. Et là, on est clairement dans l'idée de créer une sorte de Starcraft 3, en quelque sorte. C'est encore un petit peu moche, mais il y a des impressions sur le jeu. Donc, si ça vous manque, vous pourrez aller regarder ça. La vidéo sera dans la newsletter. Est-ce que j'ai le temps de dire encore quelques autres trucs? La nouvelle skin mythique du Battle Pass d'Overwatch, elle est relativement moche, mais surtout, ça a l'air d'être une skin qui avait déjà été développée. Elle est à peine tweakée, à peine modifiée. Moi, je pense que c'est parce qu'ils ont évacué les derniers Battle Pass avant la refonte. Donc, je le dis comme ça, ils vont refondre le Battle Pass l'année prochaine. Et donc, ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent et de temps sur les dernières récompenses de ce Battle Pass, je crois. Kassim, je sens que tu es d'accord avec moi dans les yeux.
Je sens aussi que... Alors, c'est la version... Je dirais que c'est la version optimiste des choses. La version optimiste, c'est que plus les mois passent, moins il y a de budget dans le développement d'Overwatch 2 et qu'on fait le service minimum. On a dit qu'on allait faire un Battle Pass tous les mois, donc maintenant, on n'a plus le budget pour faire des vrais Battle Pass, donc on va faire un Battle Pass... un peu au rabais, et en plus, c'est celui où il n'y a pas de personnage à ajouter, donc... Donc c'est celui un peu
voilà, on va pas l'acheter, donc mais au contraire ça. Tu vois, ça pourrait motiver les gens à acheter de mettre le Battle Pass. Ah, c'est celui dans lequel il y a un personnage en fait. Moga est dans ce Battle Pass.
J'avais pas vu qu'on parlait du OK.
Mais du coup, ça veut dire
pas
que
je n'ai pas suivi.
Ça veut dire que tu as pas besoin de gâcher tes bonnes skins quand de toute façon les gens vont l'acheter pour le personnage.
Peut-être. Tu vois,
peut-être. Bon.
Mais bref, voilà.
Moi, je suis plus optimiste que ça. Destiny 2, la prochaine extension, a été décalée à 2024 comme prévu.
Qu'est-ce qui se passe, mon ange? T'es fait mal? Tu veux un bisou? Voilà. Je peux finir mon podcast?
Ok, merci. 2 minutes. Je crois qu'on va s'arrêter à peu près là. Il y a 40 millions de joueurs pour Naraka Blade Point. Ça me surprend toujours le succès de ces jeux et ça montre à quel point... il y a une infinité de communautés et de jeux différents. Si vous l'entendez. 40 millions de joueurs. Alors, ce n'est pas tous des joueurs actifs, hein, mais 40 millions de joueurs pour Naraka Blade Point. Vous vous souvenez de ce que c'est que Naraka Blade Point ? J'illustre mon propos.
Je me rappelle juste d'avoir vu un trailer pour dire qu'il arrivait sur Xbox il y a genre un an ou deux à l'E3, un truc comme ça. Voilà. Et c'est à peu près tout. Mais pour aller dans ton sens, le jeu vidéo, la presse s'empare d'un jeu fort, populaire, etc., type GTA ou quoi, et en fait ses choux gras régulièrement. Mais pour autant, il y a plein de jeux qui sont pourtant très populaires et qui ne font pas la une de la presse parce que peut-être moins de choses intéressantes à en dire aussi, mais qui ont un vrai public et c'est pas des jeux de niche et enfin il y a vrai voilà et c'est un peu l'illustration je trouve. On n'entendra jamais parler de Naraka Blade Point dans je sais pas sur Polygon ou j'en sais rien ou Kotaku etc. Et pourtant il y a un vrai public et c'est pareil pour des jeux aussi vieux type Minecraft ou Roblox dont on va moins entendre parler ou de temps en temps on va entendre parler pour des enquêtes mais ils sont plus dans l'air comme ça de façon éthérée et en fait alors que ça ramène encore c'est encore le jeu le plus populaire au monde Minecraft par exemple quoi et pourtant on va pas en parler tous les mois non plus quoi.
C'est sûr. Et entre parenthèses Naraka Blade Point ça a l'air cool hein. Moi j'y ai joué un tout petit peu mais c'est une sorte de genre entre un MOBA et troisième personne, en fait un mélange entre un MOBA à la troisième personne et un Battle Royale. C'est un Battle Royale au contact en fait avec des armes, enfin des épées et ce genre de choses. Ça a l'air super cool. Mais bon. Mais j'ai malheureusement pas le temps de tout faire. Malheureusement. Dernière chose, la Gamescom aura une édition brésilienne. Ça commencera en juin 2024. Ils ont déjà une édition asiatique. Je trouve ça assez malin de la part de la Gamescom de se diversifier de la sorte. Et puis le public au Brésil du jeu vidéo. Alors c'est compliqué en Amérique latine parce que ça coûte très très cher, mais il y a quand même un public fervent. Donc c'est intéressant de la part de la Gamescom. Ils ne peuvent pas être en concurrence avec l'E3 ou Feu l'E3 ou les Game Awards. Donc, ils se développent localement parce qu'ils sont à un salon où on va essayer des jeux, où c'est une sorte de fête du jeu vidéo pour les joueurs, pas juste pour les annonces. Je trouve ça assez malin de le gérer comme ça, quoi.
Il y a un gros vivier, on le soupçonne peu en Europe avec notre point de vue un peu occidental, mais il y a un énorme vivier de jeux de joueurs. Enfin, c'est un énorme marché, l'Amérique du Sud. Mmh.
Notamment l'e-sport. L'e-sport, ils sont hyper au taquet au Brésil et dans ces pays-là. Je pense qu'ils ont tout à fait raison. Les mecs, ils sont très demandeurs, les joueurs là-bas, d'événements, de conférences et tout. Donc, juin, est-ce que juin est une bonne date? On verra.
Ouais. Je crois que c'est à peu près tout. Le Game Pass est revenu. Le Game Pass à 1 euro est revenu. Damaki nous l'a signalé sur le Discord. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné au Game Pass, vous pouvez vous abonner pour 1 euro et puis faire l'astuce pour vous abonner moins cher, etc. Il y a quelques autres news qu'on pourrait évoquer, mais je vous avoue que là, la petite commence à s'échapper. Ça devient situation critique. Je vais vous remercier de m'avoir accompagné dans cet épisode assez chaotique. On a fait un petit peu plus que la demi-heure prévue. Merci aux auditeurs de tolérer les difficultés familiales de Patrick. Merci à mes co-animateurs de tolérer les difficultés techniques que je vous impose. J'apprécie beaucoup. Avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver tous les deux?
Bah alors moi je suis en vacances, mais non, sinon on peut me retrouver sur Fandroid où je parle d'un peu de tout, mais aussi de jeux vidéo et de tech. Et on peut me retrouver sur... Est-ce que je dois encore dire qu'on doit me retrouver sur Twitter? Je ne sais pas, mais voilà, on me retrouve un peu partout. Si Adi, un dernier truc, j'ai oublié de faire une réaction, je voulais quand même le dire dans l'épisode. Tu as parlé des Game Awards, mais il y a Origami qui a annoncé les Origa... Comment ils ont appelé ça? Les Origami. Les Origami Awards.
Tout
à fait, le 20 décembre, et ce sera à Paris en public aussi pour ceux qui... Alors, ce sera sur Internet, sur Twitch, mais ce sera aussi en public pour ceux et celles qui veulent m'y croiser, j'y serai, donc voilà.
Magnifique. Les Origami et la billetterie vient d'ouvrir. Donc, je pense qu'il va falloir se dépêcher pour acheter des billets parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Mélinda, merci de ta patience et de ta gentillesse. Où te retrouve-t-on?
Eh ben moi, on me lit sur BFM Tech & Co, voilà, tout ce qui est tech et gaming. Et puis, ben, tous les jeudis, vous le savez bien, l'un comme l'autre, dans Multijoueur, sur Tech & Co, la chaîne. Et puis, en podcast, eh bien, partout pour faire la concurrence à Patrick. Essayez de rattraper Patrick.
Merci, Mélinda. Merci à tous. De mon côté, c'est Note Patrick un petit peu partout. Quand je ne suis pas occupé par ailleurs, je produis des newsletters sympathiques auxquelles vous pouvez vous abonner sur notepatrick.com avec tous les liens. Enfin, le lien est dans les notes de l'émission aussi. Le Discord, c'est un endroit sympa où on s'amuse bien. D'ailleurs, les amis joueurs de League of Legends, je découvre leur communauté sur le Discord. On a des mini-sous-communautés, vous savez. Le sujet League of Legends dans le Discord, c'est quoi? Une petite dizaine de personnes, même pas, qui sont sur les parties de temps en temps, qui s'amusent bien. Et du coup, j'ai découvert, comme on découvre des communautés de jeux qu'on ne connaissait pas de temps en temps, et on se dit, mais il y a 40 millions de personnes qui jouent là. Et ben, j'ai découvert sur notre Discord la communauté des joueurs de Ligue, et il se trouve qu'ils sont tous très sympas. Incroyable, parce que tout le monde est sympa sur le Discord. Vous pouvez nous y rejoindre. Je vous remercie de nous avoir écoutés. N'oubliez pas non plus le Patreon, hein, bien sûr, je vous le rappelle, mais vous le savez, patreon.com/rdvjeux. Je vous remercie de nous avoir écoutés et on se retrouve dans une petite semaine avec un petit peu plus de calme, j'espère. Ciao à tous. Petit bonus post-show pour tout le monde. Prédiction, est-ce que GTA 6 sera au Game Awards, Kassim?
Non.
Mélinda?
Non.
Eh ben moi, je vais dire oui. Comme ça, on aura eu raison dans l'émission, quoi qu'il arrive. Vous y croyez pas? Très bien.
Avec Kassim, on pense juste avant. Moi, je les crois malins pour faire ça.
Le même jour.
Ou la veille.
Mais ça serait
la veille, ce serait terrible. Mais oui, mais c'est les seuls qui peuvent faire ça. C'est les seuls qui peuvent se permettre.
Ou alors, annonce la veille et plus de détails au Game Awards. Genre gameplay, tout ça.
Il tue non. tout. Si on sait au Game Awards, il tue tout.
Ouais, il n'y aura plus Dieu pour personne d'autre. Donc, ouais. Je ne suis pas sûr. Évidemment que le grand public va ne parler que de GTA 6. Mais pour beaucoup de joueurs, ça sera un gros jeu. Mais on a quand même le temps de voir.
Annonce avant les Game Awards et détail à voir le lendemain après les Game Awards. Vraiment.
Attends, et Patrick, tu dis que le grand public, moi je peux te dire que pour avoir fait le papier sur GTA 6, donc le prochain GTA, parce qu'il s'appelle pas GTA 6, et les Game Awards, je peux te dire que les gens sont intéressés, tout le monde connaît GTA oui, en fait, même sûr. Ceux qui n'y jouent pas.
Non, ce que je veux dire, c'est que le grand public n'aura Dieu que pour GTA, mais les joueurs qui vont regarder les Game Awards, les joueurs plus corps, vont avoir des yeux pour tout le reste. Tu vois, les grosses annonces de Microsoft, on va regarder aussi.
Il n'y a pas d'Elden Ring, tu vois, cette année. Il n'y a pas d'Elden Ring, il n'y a pas un jeu qui a phagocyté tout le reste. Donc je pense que s'ils font ça dans la fenêtre de tir des Game Awards, ils tuent le truc. Je pense que là, il est en train de faire son chèque, d'essayer de prendre tous ses dollars pour l'avoir au Game Awards et être peinard.
On verra, ça sera le 8, ça, donc on aura un autre épisode entre-temps pour en parler. Merci à tous les deux, ciao.
Ciao, ciao.